Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité.
Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle pépite, une nouvelle régalade. Nous allons parler du livre 5 Dantessieux avec Sylvie Gracia et Adrien Bell. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bonjour Adrien.
Bonjour.
Adrien Bell, vous avez grandi à Marseille, vous êtes vidéaste, vous êtes réalisateur. Qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre à écrire?
J'ai toujours un peu écrit. Je suis passé par un petit peu de journalisme. J'ai eu ma période slam, quand le slam était bien présent dans les cafés marseillais. Donc voilà, j'avais toujours ça un peu en moi, l'écriture.
Vous avez encore un morceau de slam dans la mémoire?
Un morceau de slam, là, ouais. Pas vraiment. Un morceau de slam, non, j'en ai pas dans la tête là, tout de suite.
Bon, et en impro.
Je croyais que c'était une émission où c'était que des chemins tranquilles, balisés.
Oui, mais là c'est juste de la régalade.
Qu'est-ce que j'avais? Non, mais c'est une période slam. Je dis pas que je l'assume pas vraiment, mais c'était autre chose. Je slamais aussi des textes qui n'étaient pas les miens. Je slamais par exemple les correspondances entre Rimbaud et Verlaine. J'ai slamé Une saison en enfer. Enfin voilà, j'ai pas mal slamé des choses drôles, des choses plus tristes. Voilà.
Et vous, Sylvie Gracia, vous êtes une femme de lettres et éditrice. Vous vivez et travaillez à Paris. Vous avez été précédemment journaliste, puis écrivaine et maintenant éditrice. Vous êtes originaire de l'Aveyron. Pourquoi êtes-vous montée à Paris?
Bon, je suis montée à Paris comme plein de gens pour faire mes études. Faire une deuxième partie de mes études. J'ai fait une école de journalisme à Paris et puis de toute façon, je rêvais de venir vivre à Paris. Moi, j'ai passé toute mon enfance, pas dans l'Aveyron, mais à Montpellier. En fait, depuis l'âge de 7 ans, je vivais à Montpellier. Donc, j'ai fait mes études universitaires à Montpellier. Puis après, je suis allée à Paris, je suis restée parce que j'aime Paris. Je le dis là sur une radio marseillaise, j'aime aussi beaucoup Marseille. Hein.
Merci.
Je crois que c'est la deuxième ville dans laquelle je pourrais vivre après Paris. Donc vous voyez, mais voilà. Et j'ai gardé mon accent.
Et pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel et ce qui vous a amené à devenir éditrice? Parce que c'est quand même de votre point de départ, journaliste, il y a quand même un grand chemin. Et je sais qu'au travers de ce chemin, vous avez commis plein de livres aussi.
Oui. Non, en fait, c'est un chemin de hasard, comme on peut en rencontrer dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé à être journaliste et puis j'ai aussi commencé à publier, c'est-à-dire à écrire des romans moi-même. Et en fait, j'ai fait une rencontre à partir du moment où j'ai commencé à publier avec une personne qui était dans le milieu et qui m'a proposé de travailler avec elle et de venir travailler dans l'édition, ce à quoi j'avais jamais réfléchi, ni désiré, ni pensé. Et j'avais vraiment aucune expérience. Et c'est comme ça que j'ai créé d'emblée, c'est-à-dire qu'on m'a jeté d'emblée dans le grand bain, c'est-à-dire on m'a dit, ben, puisque tu aimes la littérature française, tu aimes bien la connaître, tu as l'air de bien la connaître et tout ça, ben, créer une collection de romans français Et j'ai fait ça, et j'ai fait ça aux éditions du Rouergue, qui donc à l'époque était à Rodez. Le Rouergue, vous savez, c'est l'ancien nom de la province, l'ancien nom de province royale. Ça recouvre à peu près le département de l'Aveyron. Donc j'ai commencé à travailler là-bas, mais depuis Paris pour le Rouergue. J'ai développé une collection, puis d'autres collections, plein de collections. Pendant 20 ans, voilà, et j'ai publié plein de livres et je continue toujours à écrire. Hein. Vous voyez, là, vous m'interrompez, au lieu d'être devant, hein. devant Zoom avec vous, je devrais être en train d'écrire. Hein.
Bon, on rattraperait.
On rattrape jamais.
c'est quoi le rôle d'une éditrice dans une maison d'édition?
Alors, mais par exemple, si on parle d'Adrien, puisqu'il est là... Adrien, en fait, je l'ai rencontré d'une façon particulière puisqu'il m'arrive aussi d'animer des ateliers d'écriture.
D'accord.
Et donc, à un moment, j'ai animé plusieurs ateliers d'écriture à Tanger, donc au Maroc. Et Adrien s'est inscrit vraiment comme ça, par hasard un peu. Je pense qu'il avait besoin aussi de se mettre vraiment avec des gens qui écrivent. Et puis, il adore Tanger, il va souvent à Tanger. Puis, par le hasard des choses, lui aussi s'est inscrit à cet atelier. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Je suis éditrice. Une éditrice, c'est quelqu'un qui a une oreille. Hein. Donc, quand on entend des textes, on sait ce qui est intéressant, ce qui l'est moins. Quoi. Donc, quand Adrien a commencé dans cet atelier, tout de suite, d'emblée, il y avait des choses qui sonnaient. Quoi. Enfin, je veux dire, il avait un truc, c'était évident. Et donc ensuite, il est revenu à un deuxième atelier, on est resté en contact. Et puis voilà, et puis il a commencé à développer cette histoire-là autour de son inscription à Marseille, ça, voilà, et je l'ai vraiment poussé à ça, c'est-à-dire que je l'ai accompagné. Un éditeur, vous savez, c'est un peu comme un entraîneur, hein, on ne va pas parler à l'entraîneur de foot, mais son premier travail, c'est de repérer les bons, c'est-à-dire les gens qui ont quelque chose à dire et qui, a priori, savent aussi un peu écrire pour être à mesure de raconter ça. Et puis ensuite, qui entraîne. C'est-à-dire, il dit, t'es bon, mais il va falloir que tu t'entraînes, petit, quoi. Donc voilà. Et ben, donc, avec... Mais j'entraîne des gens, quoi.
D'accord. la maison d'édition, l'iconoclaste, c'est quoi?
Alors, l'iconoclaste, en fait, c'est une maison qui existe depuis plus de 20 ans, mais en fait, qui est repérée en littérature simplement depuis 5 ans. Parce qu'il y a très peu de temps qu'ils se sont lancés dans l'écriture. À l'origine, c'était une maison qui faisait uniquement des livres d'art, mais qui associait à une maison d'édition plus connue qui s'appelle Les Arènes. Les Arènes, c'est une maison d'édition spécialisée dans le document. Et ce sont deux maisons frères et sœurs, on va dire. Donc, on a à la fois notre indépendance, chacun, éditorial, et puis à la fois, on a des services communs. Donc voilà, l'Iconoclaste est une maison qui se développe en littérature depuis 5 ans, donc à la recherche de premiers romans, beaucoup, etc.
C'est la particularité d'Iconoclaste, le premier roman
ou d'autres? C'est pas la particularité, mais quand vous démarrez en littérature, en fait, ce que vous faites d'abord aussi, c'est de chercher de jeunes auteurs qui n'ont jamais publié. Pas que ça, parce que l'iconoclaste a aussi publié beaucoup de gens par ailleurs qui sont publiés depuis longtemps, comme Christian Bobin, par exemple, ou tant d'autres. Donc, vous voyez, il y a eu aussi des auteurs déjà importants qui sont passés par l'iconoclaste pour un livre ou un, deux livres. Voilà. Mais moi, je suis là depuis un an et mon boulot, c'est justement d'apporter des jeunes écrivains.
D'accord, mais ça, c'est un boulot assez enthousiasmant. Et mon boulot aussi, c'est de chercher, de découvrir ce que j'appelle les pépites, les gourmandises, voilà. Parce que c'est tout ça qu'il y a besoin de montrer, de dire. Trop souvent, c'est la difficulté des jeunes, qu'ils soient réalisateurs, auteurs ou associatifs, qui ont vraiment de la difficulté à faire connaître leurs activités et la particularité de leur projet. Et mon travail ressemble au vôtre.
Non. Voilà, exactement. Ouais, vous arrivez
un peu pionnier et éleveur. Enfin, moi, je n'aime pas trop le métier d'éleveur. Je suis plutôt du genre pionnier. Après, quand il faut faire de la gestion, ça me plaît moins. Mais par la force des choses, je suis obligé d'en faire. pour venir à votre roman, maintenant, Adrien, qu'est-ce qui vous a pris véritablement sauter de la caméra au stylo, parce que c'est quand même si vous avez bricolé, écrit par-ci, par-là, mais là, vous vous lancez dans les grandes aventures.
De la caméra, ouais, la caméra au stylo, je pense que le vrai point de départ, c'est peut-être aussi celui-là. C'est-à-dire que je me retrouve, par exemple, Sylvie a parlé de Tanger. J'ai filmé Tanger. Je suis allé faire un documentaire à Tanger pendant 3 ans sur un personnage tangérois qui vivait dans un club maître désaffecté. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé en vidéo et j'ai jamais réussi vraiment à filmer Marseille. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment réussi à sortir ma caméra, aller dans les endroits que je connaissais, à filmer mes potes. Je connais vraiment bien cette ville et je l'ai pratiquée vraiment de long en large, à travers plein de choses différentes, à travers le foot, à travers plein de quartiers. J'ai fait de la boxe dans les quartiers nord, j'ai eu plusieurs histoires. Et cette ville, j'ai jamais réussi à la filmer. Je pense qu'il y a je parle de Tanger au départ parce que la première fois que je suis allé à Tanger, quand j'ai sorti ma caméra, les gens m'ont dit « Mais tu es fou, pourquoi tu fais ça ? Déjà, il faut des autorisations de tournage. » Tout le monde était effrayé. Bon, ce n'est pas la même réalité là-bas quand même aussi, mais il y a un côté aussi, je trouve que pour filmer, il faut une absence de code presque. Pour une absence de code, il faut une certaine abstraction. Et du coup, de me retrouver à l'écriture, ça m'a permis en fait de la filmer. Ça m'a permis de faire mon film sur Marseille. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à ma feuille, face à mon Word. Mais du coup, ça m'a vraiment. Alors, on dit souvent oui, une écriture cinématographique. Ouais, c'est peut-être un peu galvaudé tout ça, mais franchement, moi, pour moi, c'était vraiment vrai. C'est-à-dire que je me replongeais en fait dans des ambiances que j'avais vécues. Je retrouvais en fait, et bon, le livre se passe sur 2 époques, donc c'est les années 90 et le Marseille d'aujourd'hui. Mais du coup, quand j'écrivais sur les années 90 et sur mes souvenirs, je me replongeais vraiment dans des ambiances que j'avais vécues. Je retrouvais des odeurs, je retrouvais des décors. Le travail de mémoire, c'est assez fou, parce que ça te replonge vraiment dans des univers que tu as vécu. Et en fait aussi, tu peux aussi refaire parler les gens. Donc, tu peux faire parler des personnages. Et voilà. Donc, en fait, je me suis retrouvé seul face. Et en fait, j'ai trouvé une grande liberté à faire ça. Une liberté que je n'ai jamais trouvée en cinéma ou en documentaire. Et aussi, ce que j'aime bien aussi dans le rapport à l'écriture, c'est le... On a fait une métaphore sur le football tout à l'heure avec Sylvie qui parlait d'entraîneur. C'est un sport individuel, l'écriture. Et moi, j'ai joué au foot longtemps. J'ai fait de la boxe aussi. Et en fait, quand tu fais un match de boxe, si tu le perds, c'est ta faute. Quand tu fais un match de foot, tu peux souvent dire « Ouais, mais on ne m'a pas donné le ballon. Ouais, mais… » Il y a un côté… dans le sport collectif où tu peux toujours trouver des excuses. Tu peux toujours dire « Ouais, mais voilà, j'étais pas bien ce jour-là. » En fait, il y a vraiment un truc. Et moi, j'ai retrouvé… Et dans le cinéma, c'est vraiment un sport collectif. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens aussi qui réalisent des films et qui ne sont pas vraiment des réalisateurs non plus, qui se retrouvent à faire des films. En fait, c'est des chefs-op qui font leurs films ou alors c'est des monteurs qui font leurs films. Là, dans l'écriture, c'est toi face à toi-même. Et si ce n'est pas bon… Eh ben, c'est pour ta pomme. Tu peux pas te. Et ça, j'aimais bien cette idée.
Est-ce qu'il y a besoin d'être Marseillais, d'être né à Marseille, pour écrire ou pour filmer Marseille ? Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de docus, plein de films sur Marseille.
Non, mais par exemple, alors j'ai pas lu le Rebecca Alighieri, mais apparemment c'est très bon. Je pense que pour écrire ce que j'ai écrit moi, je pense quand même qu'il… Je ne sais pas, mais c'est un récit de vie, c'est des choses qui vont loin en fait dans la pratique de Marseille. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'est pas marseillais aurait pu écrire ça. Après, on peut écrire et on peut aborder une ville de manière très différente. On peut parler par exemple du livre de Julia Carninon qui sort en ce moment chez l'Iconoclaste avec moi, qui a son cinquième roman, et elle aborde aussi des différentes villes. Elle aborde Berlin, elle part au Chili. Donc voilà, on peut quand même parler de villes, on peut créer des décors sans forcément y avoir vécu. Il y a différentes manières d'aborder une ville. Tu peux la placer comme un décor, tu peux t'y mettre dedans. Enfin, en tout cas, non. En tout cas, à Marseille, ça a souvent été le cas. Hein. Je veux dire, Pagnol, Pujol. En tout cas, en écriture, c'est des gens qui viennent d'ici. Et après, je ne sais pas, par exemple, le film Sherazade aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un bon film aussi, hein, ou Guédiguian. Et le film Sherazade, je crois qu'il est marseillais, le réalisateur, et il a réussi à faire un bon film sur Marseille, qui est un film qui est honnête, et qui tente pas de raconter trop de choses, mais qui sonne assez juste. Et je pense que s'il a eu cette justesse-là, c'est qu'il connaissait Marseille. Par exemple, on peut parler de la série Marseille sur Netflix qui est plein de décalage, qui est plein de... Par exemple, je me souviens d'un premier épisode parce que j'ai regardé, et il y a Depardieu qui rentre dans le stade Vélodrome et il y a des drapeaux français dans le stade Vélodrome. Là, tu dis, putain, quelle erreur, c'est pas possible. Il y a le mec qui descend de la cité de Félix Piat, un mec qui est un peu voyou, et il y a des mecs qui font du breakdance en bas de la cité de Félix Piat. Mais non, tu peux pas faire ça. Voilà. Donc, c'est des erreurs. Après, je pense que des gens qui viennent ici et qui peuvent observer la ville, peut-être ils tomberont pas dans ces clichés ou dans ces erreurs-là. Mais ça permet, en tout cas, d'éviter certaines erreurs, je pense.
Mais est-ce que c'est plus facile de raconter son histoire ou de raconter des histoires, de faire du vrai roman fiction ou bien d'un partir de sa propre expérience, de sa propre histoire, pour développer son livre?
Je pense qu'il y a la question des matériaux qui...
La Sylvie va pouvoir nous aider aussi.
Ouais, en fait, c'est vrai que le moi, j'ai fait un peu les... Dans ce livre, j'ai fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des personnages qui sont purement fictifs, il y a des choses qui sont purement fictives, et à la fois, il y a des choses qui sont vécues. Donc, il y a les deux. Après, on s'arrange toujours, comme je dis, avec le réel. On met en scène sa propre histoire parce qu'il ne suffit pas d'avoir vécu des choses pour pouvoir les raconter. Il faut aussi pouvoir les mettre en scène. Et après, oui, le truc, c'est que quand on les a vécues, on a tous les matériaux dans la tête. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Je pense que c'est ça aussi qui permet aussi de d'écrire avec une plus grande facilité, quoi. Sylvie?
On a la harissa dans le sandwich, c'est vrai.
La harissa dans le sandwich, ouais, c'est vrai, ouais.
C'est ce que je demande à Adrien.
Ouais, la harissa dans le sandwich, bien sûr.
Non, mais c'est mayonnaise harissa, quoi. C'est un truc.
Mayo harissa, ouais, mayo harissa, c'est des choses qui sonnent vraies, qui bout à bout montent un corps. Tout à l'heure, il y a un lecteur qui m'a interpellé, qui m'a dit « Ouais, j'adore votre livre, il a lu deux fois. » Et il me dit « Par contre, 30 euros le matelas au petit pavillon, c'est une erreur. » Et donc, je dis « Mais tu es sûr que j'ai mis 30 euros ?»
Ce qui est vrai, c'est que Adrien a vraiment un grand sens du détail. Donc, ça a tout son œuvré dans son livre. Je veux dire, quand il se promène dans Marseille, il va nous donner les noms des rues… On va se promener avec lui. Alors moi, je connais un peu Marseille, donc j'arrivais un peu à me repérer. Mais dans l'équipe, alliée à l'Iconoclaste, dans la maison d'édition, les gens ne connaissaient pas Marseille. Il y avait plein de trucs qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, Adrien a dû faire quand même un peu un travail pour qu'ils sentent aussi, pour qu'ils arrivent eux-mêmes à se repérer. Du genre, quand il parlait d'un quartier, il fallait qu'on sache d'emblée si c'était un quartier, quel type de quartier, ou ça, dans le centre, ailleurs et tout ça. Donc, il a fait aussi un travail... Un travail pour que tout le monde puisse s'y repérer, et pas simplement les gens qui connaissent la ville. Et grâce à son sens du détail, quand même, c'est vrai, il t'a parlé tout à l'heure d'une écriture cinéma. On se repère, on se promène avec ses personnages, on sent les odeurs, on entend les voix. Enfin, je veux dire, il a aussi tout le travail qu'il a fait de fiction, on va dire, c'est aussi le travail de reconstitution des dialogues. il fallait retrouver la langue de ces jeunes dans les années 90, comment ils parlaient. Bon, je ne sais pas, là, les retours des Marseillais, c'est plutôt du genre de dire, ben, Adrien, justement, il n'est pas dans le cliché, quoi. Il nous donne à voir, pas un cliché de Marseille, mais vraiment une plongée profonde dans ce qu'est cette ville et ses habitants.
Oui, moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est qu'en fait, on ressent bien les odeurs, on ressent bien les situations. C'est Adrien, je vais jusqu'à dire qu'il fait de la dentelle. Il fait vraiment de l'écriture très, comme vous le disiez, très très descriptive. Il pourrait presque avec sa caméra devenir maintenant documentariste et montrer véritablement moi ce qui j'ai toujours envie qu'un jour quelqu'un ait envie de raconter la rue de la République
de
Napoléon III qu'il a percé jusqu'à ce qu'elle l'ait devenue ou plus devenue aujourd'hui.
Et moi, j'ai publié dans le temps un livre qui se passait en partie rue de la République dans les années 20 et qui c'est un écrivain qui est originaire d'Aix, qui a fait la fac d'histoire à Aix, qui est historien et écrivain et qui a écrit un livre qui a exhumé des archives un fait divers qui se passe dans la rue de la République dans les années 20 et il retranscrit le Marseille de l'époque et c'est absolument génial avec. Il y a justement le panier qui est vraiment le panier des proxénètes à l'époque, des proxénètes corses, mais aussi d'origine africaine, parce qu'à cette époque-là, il y a plein de proxénètes d'origine sénégalaise, etc. Et voilà, la rue de la République, c'est effectivement un roman, quoi, un roman pour une rue, quoi.
Je vais vous raconter une anecdote journalistique. C'était il y a une dizaine d'années. Anne Sinclair faisait des émissions sur les grandes villes françaises. Et elle vient à Marseille et elle fait un reportage sur Marseille comme une journaliste peut le faire. Et elle rencontre un personnage que tout le monde connaissait, que tout le monde appelait Kiki Larose. Kiki Larose, c'était une dame qui était marchande de fleurs. Et elle passait dans tous les bars, dans tous les restos, pour vendre ses fleurs pour se faire un peu d'argent, c'était son travail. Et quand elle rentrait dans le bistrot ou dans le restaurant, elle criait kikiki 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 la Ave Rose, et donc tout le monde l'appelait Kiki. Et bien sûr Anne Sinclair l'interviewait, Kiki lui dit: mais non madame, à Marseille il se passe rien, qu'est-ce que vous croyez, c'est une ville qui est tranquille. Moi, à 2h du matin, ben, quand j'ai fini de travailler, ben, soit je rentre à pied si je ne suis pas trop fatigué, sinon c'est un client qui me raccompagne. Et sinon, ben, je prends un taxi, mais il ne se passe jamais rien à Marseille, madame. Ce sont des histoires. Le lendemain, dans ce qui était encore le Provençal, meurtre à Marseille. Kiki Larose avait posé un contrat sur son beau-frère. Et la suite de l'histoire, c'est que Kiki Larose, donc elle se fait encabaner, pardon, elle avait en prison aux Beauvettes, et là, elle connaissait tout le monde. Parce que pendant qu'elle faisait le tour des bars et des restaurants, lorsqu'il y avait des descentes de police, elle faisait le tour de toutes les tables, et tous ceux qui étaient chargés, tous ceux qui avaient une arme sur eux, la jetaient dans le seau. Donc, elle connaissait tout Marseille de la nuit.
Ben.
On va revenir au livre d'Adrien, quand même. Qu'est-ce que vous avez eu véritablement envie de raconter dans ce livre? Moi, je l'ai lu, mais il faut que vous donniez envie à d'autres de l'acheter, puis de le lire, et puis de le partager.
Ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire d'une amitié qui a qui a été effacée, en fait, d'une amitié qui n'existe plus, comme ça peut être le cas dans d'autres milieux, dans d'autres quartiers, mais en fait, avec ce quartier qui s'est complètement transformé, ce que j'avais envie de raconter, c'était comment une histoire d'amitié qui a été assez forte et intense se délite avec le temps, se transforme et en fait explose et en fait il nous reste finalement que nos souvenirs. C'est ça que j'avais envie de raconter, que en fait c'est la période de l'adolescence là comme ça où on vit les choses qui sont très intensément et en fait ça dure finalement peu de temps. Et souvent, à Marseille, on dit quand on rencontre quelqu'un dans la rue qu'on a connu il y a longtemps, on dit « c'est mon ami d'enfance ». Ça, c'est mon ami d'enfance.
C'est vrai.
Quand on dit « c'est mon ami d'enfance », ça veut dire clairement « c'est l'amitié qu'on garde ouais. ». Mais pas forcément qu'on garde dans le réel aujourd'hui, c'est-à-dire « mais c'est l'amitié qu'on garde dans notre tête ».
C'est ça, c'est l'amitié qu'on garde dans la mémoire et on garde dans la mémoire ce qu'on a partagé.
Voilà, les amis d'enfance, en tout cas à Marseille, c'est cher en fait. Même si on sait qu'ils ne sont pas là, ils sont toujours là. C'est-à-dire que tu peux toujours faire appel à un ami d'enfance, tes amis d'enfance. Et en fait, par exemple, il y a la sœur d'un mec, d'un des potes de stress dont il sait qu'elle s'est fait tuer. Ça part d'une histoire vraie qui est un peu transformée. Et en fait, j'ai reçu un appel un jour. On me dit, ouais, putain, il y a sa sœur qui est morte et tout. Appelle-le. Bon, et le mec, voilà, ça faisait 10 ans, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas eu au téléphone. Il me dit, putain, il me dit cette phrase. Il me dit, tu sais, bon, maintenant, il y a une expression qui s'appelle le sang. Il me dit, tu es le sang et tu resteras toujours le sang. Oh. Et en fait, c'est ça. C'est des trucs, en fait, où on a vécu très intensément. Notre amitié de l'âge de 13 à 18 ans. Et après, au fur et à mesure, cette amitié se délite. Il y a des embrouilles entre les gars. Et en fait, avec la gentrification aussi, bon, avec la gentrification du panier, avec la transformation de ce quartier, tout le monde est parti ailleurs. Et tout le monde est parti faire sa vie. Comme je dis à un moment donné, les problèmes sont arrivés en même temps que les lettres de la CAF dans les boîtes aux lettres. Donc, à un moment donné, l'âge adulte fait que… Alors, moi, j'ai aussi quand même… en tout cas, peut-être que dans d'autres milieux, c'est peut-être plus facile de garder ses amis d'enfance, mais c'est ça que je voulais raconter. Voilà, ce moment assez éphémère dans la vie de jeunes et finalement qui se transforme et qui explose avec le temps.
Et Sylvie et Adrien, comment vous avez travaillé ensemble? Parce que disiez, Sylvie, que vous êtes un entraîneur, donc vous avez rencontré un candidat à l'écriture plutôt doué. Comment vous êtes partagé les rôles? Parce que là aussi, il s'agit de partage, de complicité, de jumelage. L'un ne peut pas faire sans l'autre.
Ben justement, moi, je l'ai poussé à… Il avait un matériau très riche, son enfance dans le panier, aujourd'hui, ce qui est devenu Marseille. Il avait énormément, énormément de choses. Et à chaque fois qu'il a porté un chapitre, une scène, moi, je pouvais lui dire, ben oui, mais tel personnage, nous, il faut qu'on le voit. Il va falloir que tu suives ces personnages aussi sur le temps. Il va falloir que tu sur les dialogues, par exemple, Adrien, il est très bon sur les dialogues, mais parfois il en faisait trop. Donc je lui disais, ben ouais, mais ton dialogue là, il est trop long, tu vas couper. Et même chose sur Marseille, il fallait que des gens qui ne connaissent pas Marseille puissent entrer dans ce livre-là. Et ce repère, je vous ai dit, dans les lieux, je veux dire, il y a plein d'implicites. Il connaît tellement Marseille que pour lui tout lui semblait évident, mais il fallait qu'il fasse ce pas vers le lecteur non marseillais. Ça, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, ce lecteur non marseillais, pour qu'aussi les gens puissent saisir la force de ce qu'il pouvait raconter, par exemple. Au début, les copains, on les voyait, mais ensuite, 20 ans plus tard, on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Donc, il fallait qu'un tel, bon, on découvrait qu'il livrait des machines à laver dans les quartiers au Roucasse-Blanc. Donc voilà, par exemple, quand ils disaient Roucasse-Blanc, moi ça me suffisait pas. Moi je sais ce que c'est que le Roucasse-Blanc, mais quelqu'un qui jamais allé à Marseille, il sait pas quoi. Ou, voilà, il y avait tout un truc pour renforcer son livre et pour le passer au lecteur. Mais ça, c'est le travail qu'on fait toujours quand on est éditeur, quoi. Tu te dis, derrière, il y a quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire, qui ne connaît pas les lieux, qui ne connaît pas le truc. Il va falloir que tu lui donnes le maximum de ce que tu as à dire.
Ça a été facile?
Ben, je ne sais pas, ça c'est à Adrien de le dire, quoi. C'était facile, Adrien? Non.
On se pose pas la question comme ça. En fait, moi, ce que je dis souvent, et en fait, maintenant, c'est vrai que je me rends compte que c'est pas forcément la meilleure image. Je dis souvent que le, alors je fais toujours encore la métaphore cinéma, que l'éditeur, c'est un monteur. C'est-à-dire, le monteur en cinéma, il va couper dans ta matière. Donc, il va dire,
ouais, là, j'ai coupé, ouais.
Voilà. Donc, tu fais de la surenchère là. Là, tu fais de la surenchère. Cette phrase, non, elle est de trop. En fait, il coupe dans une matière à laquelle toi, tu es trop attaché. C'est-à-dire, en cinéma, tu vas faire des beaux plans, tu vas dire « Ah, oh, putain, j'adore ce plan ». Le monteur, il arrive, il dit « Mais non, ça ne sert pas l'histoire, ça ne sert à rien, on le coupe. Cette phrase, elle est en trop, on la coupe là, tu as déjà fait une série de blagues, tu es trop dans la surenchère d'images, maintenant, il faut que tu racontes, il faut que tu sois plus narratif. » Mais en fait, ce n'est pas qu'un monteur. En fait, parce que lui, il va te pousser à aller refilmer des choses, ce qui n'est pas le cas d'un monteur. Donc, en fait, lui, il va te dire, ouais, mais là, il faut que tu nous en dises plus. Là, il faut que tu te replonges là-dedans. Donc, en fait, il y a aussi un côté producteur. Il y a un côté producteur après avoir filmé. Il dit, ouais, non, mais là, tu es gentil avec ta caméra, mais il faut que tu y retournes. Donc, à la fois, il fait du montage, il cut, mais à la fois, il te pousse à aller chercher d'autres choses.
Mmh. Et qu'on... Ouais, après, par exemple, bon, il y a des personnages qui sont intervenus. Par exemple, le personnage de la mère du narrateur, la stress, elle est intervenue à un moment, elle n'y était pas. On avait besoin, en fait, le narrateur principal, le narrateur du livre, stress, il était comme un personnage, une ombre qui passait avec tous ces gens-là. Et je lui ai dit, non mais attends, ce personnage-là, il va falloir que tu le construises aussi. Pourquoi il est dans ce panier et tout ça, quoi. Pourquoi il est arrivé là? On sent qu'il n'est pas lui d'originaire d'Algérie ou d'ailleurs ou comorien ou je ne sais pas quoi. Pourquoi lui, il est parmi tous ces gens-là? Comment il a débarqué dans ce panier-là? Pourquoi?
C'est-à-dire que souvent, en fait, moi, pour avoir bossé avec Sylvie, moi, je trouve que souvent, il pointe, enfin, en tout cas, Sylvie a pointé sur des choses, sur des paresses. C'est-à-dire sur des choses que tu sais au fond de toi, tu sais que tu dois en dire plus, tu sais que cette scène, il faut que tu ailles plus loin, tu sais que ce personnage, il faut que tu le développes, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu en as marre, parce que ça fait des plombes que tu es dessus, mais elle te dit, vas-y, continue. En fait, il y a un côté un peu dépassement de soi, c'est-à-dire tu te dis, bah, là, ouais, tu es bon, mais il faut que tu ailles encore plus loin. Alors toi, tu traînes un peu les pieds, mais finalement, il faut que tu y ailles. En fait, on revient encore à l'entraîneur, décidément. Elle te pousse dans tes retranchements et finalement, à la fin, tu dis oui, ben, c'est mieux comme ça, quoi. C'est vraiment un regard extérieur. C'est un regard extérieur et c'est vraiment quelqu'un qui te permet de voir dans un... À un moment donné, tu es un peu dans une forêt, quoi. Tu es un peu t'es pris par ton propre truc, piégé par tes propres phrases, par tes propres histoires. L'éditeur, il te dit, allez, va à droite, va à gauche, continue, débroussaille. Il y a un côté comme ça, il y a un côté un peu guide, quoi.
Alors, on peut dire que le travail de l'éditeur est à la fois exigeant et bienveillant.
Ouais, bienveillant. De toute façon, je pense qu'il est. Enfin, à partir du moment où tu as choisi, où il a choisi de bosser avec toi, je pense que c'est dans son intérêt d'être bienveillant. Hein. En tout cas, de trouver les mots pour te dire. Alors, Sylvie, on rigole parce que dans la marge, je te mets bof, par exemple. Donc, en fait, quand tu reçois tes trucs de tes retours d'écriture, alors c'est marrant parce que tu l'as au téléphone, tu te dis putain, c'est super, putain, on le sent bien ton truc, putain, c'est génial ton truc sur Marseille et tout. Puis après, tu reçois les corrections.
Tu dis, c'est pour passer le bonne nuit.
tu vois, mais tu ne m'as pas dit, moi, je pensais pas. Donc, en fait, dans la marge, et tu avances comme ça et te mets des ouais, ça, moyen, ça, truc. Et souvent, c'est des choses que tu sais déjà. Souvent, je pense que quand les éditeurs sont bons, en tout cas, moi, je me projette peu parce que c'est mon premier livre, je pense que tu es souvent d'accord avec eux. J'ai très peu souvent marchandé. J'ai très peu dit ouais, mais non, ça, finalement, ça arrivait très peu. Ou je me dis non, mais elle a tort. Ou non. En fait, voilà, il y a un regard à la fois très précis et très macro, très micro, et à la fois, il y a un regard beaucoup plus large. Et donc, voilà, l'éditeur, il fait les deux. Il est à la fois sur des choses très précises et boum, il est aussi sur… il fait en sorte que le livre se dirige de la meilleure manière possible.
Combien de temps durent ces échanges généralement ? Je ne sais pas s'il est possible de donner… des durées. Est-ce que ça dure 3 mois, 3 ans?
Ben, avec Adrien, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à travailler concrètement sur le texte. C'est-à-dire que moi, je lisais des petits bouts, mais ce n'était pas du travail, c'était juste de l'encouragement. Après, on a commencé à travailler à l'automne, il me semble, non?
6 mois peut-être, 6-7
ouais,
mois.
6 mois. Mais 6-7 ouais. Mois vraiment… mais 6-7 mois vraiment en continu, hein, c'est-à-dire c'était des allers-retours…
Travail intense.
Intense, ouais.
Ouais, c'était intense.
Ouais, ouais, là aussi, je suis en train de finaliser des livres pour janvier. On fait des allers-retours plusieurs fois par semaine avec les auteurs. Donc, exception, parfois, il y a des livres qui arrivent, ils tombent parfaitement. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu un miracle, mais…
Oui, il y a juste à faire quelques réglages, mais pas plus, quoi.
Oui, après, même avec des auteurs qui ont déjà publié un certain nombre de livres, ça peut arriver que les échanges soient importants. Mmh. Il vaut mieux d'ailleurs, ça veut dire que l'éditeur joue son rôle.
C'est ça.
Ça il ne peut pas rien faire. Hein.
Et ce n'est pas du tout la même démarche que l'auto-édition, où on n'a pas justement cet accompagnement, ce cadrage, cette expertise de la part de l'éditeur qui, de mon point de vue, est fondamental.
Oui, oui. Et puis surtout, c'est le choix. Nous, à l'Iconoclaste, cette année, on a publié 5 romans.
Ah oui,
donc, vous voyez, 5 romans, ça veut dire que je reçois en ce moment, je reçois 15 à 20 manuscrits par jour.
Wow, c'est énorme.
Donc, vous voyez que la sélection est quand même redoutable. Redoutable.
Lorsque je m'occupais de gestion de personnel, je racontais toujours, c'était il y a une trentaine d'années, et l'entreprise s'appelait encore l'aérospatiale, entre Saint-Victor et Marignane. Il y avait 2 personnes qui étaient employées à temps plein pour répondre non merci.
Voilà, ben moi je fais
non. La durée de lecture d'une candidature, voilà. C'était moins de 5 secondes.
Oui, oui.
Vous recevez 7500 candidatures par semaine. C'est énorme. Alors, je comprends bien aussi que vous ne pouvez pas passer trop de temps à lire tous les manuscrits. Et j'imagine que si le début, vous n'accrochez pas, c'est non merci.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais après, ça veut dire que celui qui a été choisi, on fait en sorte qu'il soit le meilleur possible.
Ben oui.
Voilà, le meilleur possible. Donc, c'est pour ça que ce travail d'accompagnement, je ne sais pas, là, en tout cas, pour Adrien, le résultat est indiscutable. C'est-à-dire, il fait partie des 5 premiers romans de cette rentrée littéraire. Vous savez, la rentrée littéraire est quelque chose de très important. Il y a 500 livres, plus de 500 livres qui sortent entre août et septembre. Et Adrien fait partie des 5 premiers romans remarqués. Il a eu, je ne sais pas combien d'articles de presse déjà. Il a été dans 3 sélections de prix. Là, il vient d'être sélectionné pour le prix de Flore, qui est un des grands prix littéraires de la rentrée littéraire. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de hasard. Non, mais bon, la qualité, ça a toujours payé, quel que soit le métier qu'on fait.
Bien sûr, bien sûr. J'aimerais parce que tous les deux, vous connaissez bien Marseille, mais avant de parler de Marseille, un peu plus de l'actualité marseillaise, qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos de ce très beau livre que vient de rédiger Adrien?
Moi, en tant qu'éditrice,
l'un et l'autre.
Adrien, peut-être que tu peux parler aussi du Marseille d'aujourd'hui. Ouais. C'est aussi un regard sur le Marseille d'aujourd'hui.
Ouais. Oui. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir quel était le point de départ de mon livre. Donc, j'ai beaucoup parlé de l'histoire d'amitié. Mais je pense que c'est aussi, et on le dit souvent, le personnage principal de mon livre, c'est Marseille. Et en fait, je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais ce livre, c'est un dialogue avec ma ville. C'est un dialogue avec ma ville. Moi, je suis fils de pied-noir, avec un père qui s'est installé à Marseille dans les années 60-70. Donc, je ne suis pas forcément quelqu'un du terroir, quoi. Je n'ai pas des grosses attaches comme un fils de Napolitain. Et en fait, Marseille, c'est une ville où tout le monde crie son amour à cette ville et son attachement à cette ville très rapidement, des fois même un peu trop rapidement. Moi, j'ai passé ma vie avec des Marseillais dans un quartier du Panier où les choses… Comme un peu un accident, on va dire, hein, que mes parents soient arrivés là. En tout cas, nous, moi et mon frère, on est un peu, voilà, on a grandi dans ce quartier dans les années 90. Mais finalement, à Marseille, ce que je trouve, c'est que c'est très difficile de se faire une place et de crier, ou en tout cas de dire son amour à cette ville. Et en fait, ce livre, ça m'a permis de le faire. Ça m'a permis de dire, je te connais, je t'aime. Et je vois que tu changes. Je vois que tu changes et ça me fait du mal. Et avant que tu ne changes trop, je voudrais te dire à quel point je suis un enfant de toi, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'à Marseille, on est un peu tous des enfants illégitimes qui le gueulons tout le temps, quoi. Et voilà.
Il y a à Marseille une expression qui est Marseille ouvre ses bras et n'ouvre jamais ses cœurs. Et en fait, on l'observe lorsqu'on se trouve dans un bistrot, même si on n'y connaît personne, on va pouvoir parler avec tous les gens qui sont le long du bar, et invariablement, ouais, je te rappelle, tu viens à la maison, on dîne ensemble, toujours les promesses. Et ça n'arrive jamais, quoi. Alors que pendant une heure, on a partagé des pastagas. Et moi, à propos de cette ville Marseille que j'adore, je dis volontiers que je me suis expatrié pendant 10 ans, mais pas très loin, parti à Béziers, à Paris, à Lyon, mais j'avais vraiment un besoin fondamental, un besoin viscéral de revenir à Marseille, qui est la ville où je suis né, que je connais, et dont je connais l'histoire et les petites histoires. Et lorsque je suis revenu, c'était en 75. Et en même temps, à Lyon et à Paris, était construit le métro. Le métro de Lyon a été financé à 80% par l'État. Le métro marseillais a été financé à 20%. Ce qui veut dire que l'État a remboursé la TVA à Marseille, pour faire court. Dans les histoires qui, pour moi, sont toujours violentes, c'est l'installation du tramway dans la rue de la République. 3 ans. Pour installer le tramway. Non pas parce qu'il y avait des difficultés techniques, mais parce que ce qui était à l'époque la Société immobilière de Marseille, qui est devenue maintenant la Soleam, voulait racheter tous les fonds de commerce, tous les rez-de-chaussée, le moins cher possible. Et donc les travaux ont duré pendant 3 ans pour rendre exsangues tous les commerçants. Et on a vu les mêmes comportements 20 ans après, 30 ans après, avec ce qui s'est passé à la Plaine. Ou avant de donner le premier coup de pioche, on a commencé à couper des arbres. Et donc, il y a plein d'histoires de la sorte qui, pour moi, sont violentes. Et je vois évoluer cette ville avec beaucoup de tristesse. J'ai connu les quartiers, mais comme vous, on disait on va en ville. Parce qu'en ville, on trouvait ce qu'on ne trouvait pas, on trouvait les marchandises qu'on ne trouvait pas dans les quartiers. Dans les quartiers, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de magasin de vêtements ou pas grand-chose. Ouais. Il y avait tout ce qui était des produits de première nécessité, l'alimentation, la charcuterie, la viande, les bistrots, mais tout le reste, il fallait aller en ville. Ce qui faisait que ce lieu-là, c'était un vrai lieu de rencontre, de mixage. Vous l'avez pas connu parce que c'est mais peut-être quand même. Jusqu'à ce que Vigouroux devienne maire de Marseille, tout le long de la Canebière, il y avait devant des étalages devant toutes les boutiques. Alors, je dis pas que c'était bien, pas bien, mais il n'empêche que ça créait une ambiance, une attraction, de la rencontre, de la chamaille. Mais ça vivait. Et comme dans la rue de la République, il n'y a pas un banc, il n'y a pas une poubelle, il n'y a pas un bistrot. Donc c'est un lieu où on ne peut que passer, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas dire, ben, je vais faire des courses dans cette rue, puis je me pose pour boire un café, ou je me pose parce que je suis fatigué. Donc c'est seulement une rue où on ne peut que passer. Et puis, je trouve que Marseille, ça a été, Marseille 2013, ça a été la grande gentrification. C'était pas pour apporter de la culture à Marseille, ça n'a servi qu'aux grandes structures, aux grands théâtres, aux compagnies installées. Tout, ça a servi à tuer 60% des petites associations. Ça a servi surtout à foutre les gens dehors. Et rappelez-vous, Le premier événement de Marseille 2013, le premier événement, c'était le cri. Je ne sais pas si c'était un cri de joie ou un cri de terreur. Et le deuxième événement, c'était les moutons dans la rue. Pour prétexte de transhumance, mais pour moi, on mettait les Marseillais dans la rue. Et j'en viens à des choses qui sont davantage agréables et réjouissantes, mais vous pourrez vous exprimer aussi sur cette évolution de Marseille telle que vous la connaissez. Le 4 juillet, pour la première fois, une femme est élue maire de Marseille. Donc ce sont deux événements en même temps. C'est toute la dynastie de Féraud, gaudiniste, qui se fait éjecter, et pour la première fois, une femme qui prend la direction de cette ville. Qu'est-ce que vous pensez de ma colère?
Non, mais oui, Marseille 2013, c'est ça, c'est le premier lifting, c'est le premier moment. Enfin, ils ont décidé de faire sans certaines personnes. Je vois par exemple en ce moment.
Pardon, pas mal, vous interrompre. Il s'est passé la même chose à Berlin, à Barcelone, à Liverpool, dans toutes les villes qui ont été ville européenne de la culture, ça n'a servi qu'à ça.
Ouais, ça a servi à monter juste des infrastructures. Après, des gros. Je vois par exemple, moi, le cas de IAM, je m'en rappelle du groupe IAM, qui voulait faire une maison du rap. Ils avaient déposé un dossier pour faire une maison du rap à Marseille. C'était un beau projet, je pense. Et ils n'ont pas été écoutés. C'était un truc. Après. Ouais, Marseille 2013, effectivement. Après, sur Ruby Rolla, rien que une des premières mesures qu'a pris la mairie au moment de l'élection de Ruby Rolla, c'était d'enlever les barrières qui étaient devant la mairie sur le Vieux-Port. Rien que ça. Ils enlèvent les barrières. C'est un truc hyper symbolique. C'est rien, mais en fait, ça veut dire beaucoup, je pense. Après, une femme, on va voir. On va voir parce qu'il y a plein de choses qui vont être en jeu. D'ailleurs, les journaux se sont empressés d'éduquer un peu les gens sur le pouvoir de la métropole, le pouvoir de la mairie. Les gens savent un peu plus maintenant qui fait quoi. Avant, on ne savait pas que les poubelles étaient gérées par la métropole, par exemple. On va voir comment, par exemple aussi, le fait qu'ils disent qu'ils vont accueillir le bateau de migrants de Banski. Voilà, ce sont encore des symboles, mais c'est des beaux symboles, je trouve.
C'est mieux que de dire on n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde.
C'est sûr. Après, gaulliste. Je sais pas. C'est,
Non,
j'ai
non, je
l'impression
dis
qu'à.
gaudiniste, pas gaulliste,
Ah,
gaudiniste.
gaudiniste. Ouais, d'accord, ok. Ouais,
Non, c'était.
là, je suis d'accord. Parce qu'à Marseille, les couleurs politiques, quand on avait le choix, je me rappelle toujours de mon père qui me dit, putain, tu te rends compte, j'ai le choix entre Godin et Guérini. Pour lui, c'était dramatique.
Ben oui,
Moi,
ça.
je me rendais pas compte à l'époque. Il me disait, mais tu te rends compte? Il ne savait pas, il était perdu. Alors, on nous expliquait que Guérini, c'était le Parti socialiste, mais ça veut dire quoi à Marseille, le Parti socialiste? Ça veut rien dire. Les Républicains, ça veut rien dire. Je veux dire, voilà. Après, on verra. Ils vont faire l'expérience du pouvoir, en tout cas.
Ouais. Mais
Ils vont faire l'expérience.
Godin et Guérini ont été élevés au biberon de Defferre.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien
Guérini
sûr.
au panier, et puis Defferre, qui avait, je crois, 25 ou 26 ans lorsqu'il a été élu conseiller municipal avec Gaston Defferre.
Ouais, au même titre que Benoît Payan ou Samy Hagali, qui sont maintenant avec le printemps marseillais, sont aussi des enfants de ce système-là. Hein.
Tout à
Je
fait.
dirais, voilà. Hein. Donc après, voilà, ça fait partie aussi de l'expérience de la démocratie. On va voir ce qui se passe. Après, par exemple, vous avez pris l'exemple des travaux de la Plaine. Je suis curieux de voir. Quel système de démocratie participative ils vont mettre en place? Est-ce qu'ils vont écouter les gens? Par exemple, si demain il y a un nouveau La Plaine qui se présente, il y a un nouveau gros chantier qui se présente, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont consulter les gens? Est-ce qu'ils vont les écouter? Est-ce qu'ils vont faire avec eux? Voilà.
La Plaine, c'est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple, parce que
Ouais.
l'urbanisme dépend de la métropole et non pas il n'est pas de compétence municipale.
Voilà. Donc,
Mais
ce sont
il n'empêche que malgré cette absence de compétence, Michel Rubirola a lancé un appel à candidature pour recruter un chef de projet pour créer un lien, une relation entre les trois mairies de secteur qui sont concernées par la Plaine. Donc, on peut pas faire, mais quand même, on va essayer de faire. Enfin, c'est comme ça que j'essaie de le percevoir. Après, est-ce que Martine Vassal, la présidente de la métropole, acceptera d'être bienveillante pour cette ville qui, quand même, représente la moitié de la population?
Oui. Et puis il y a eu déjà des efforts, il y a eu des annonces sur la communauté LGBT. Voilà, il y a des signes forts. Voilà. En tout
Bon.
cas,
Moi, je
voilà.
ne peux qu'en être très, très, très satisfait parce que il y a une adjointe qui a été désignée pour s'occuper de l'éducation populaire. Et pour la première fois, la mairie de Marseille prête une salle tous les 15 jours à l'Université populaire de Marseille. Donc, ce sont quand même des changements significatifs.
Bien sûr, bien sûr.
Sylvie, comment vous voyez Marseille, vous, depuis la capitale?
Ben moi, j'ai vu, enfin, pendant ces élections, surtout, ce qui a été très intéressant, c'est pas simplement Marseille, c'est toutes les villes, tout d'un coup, qui d'une certaine manière, se disent, ben, on va élire des gens qui, pour certains, n'ont pas grande expérience politique, en tout cas de gestion de ville, et on va voir ce qu'ils donnent. Donc ça, c'est extrêmement. Les surprises viennent toujours des endroits où on ne les attend pas, et ces municipales ont été vraiment une surprise politique, vraiment très réjouissante. Après, à Marseille, moi, j'y vis pas assez pour savoir. Hein. Alors, Adrienne, dans son livre, justement, il parle du Marseille d'aujourd'hui. L'arrivée des gens venus d'ailleurs, qu'il appelle les venants, hein, de la gentrification, et puis à la fois de ce centre-ville complètement paupérisé et tout ça. Donc, moi, Marseille, moi, c'est une ville qui. Alors, ce que dit Adrien aussi, enfin, je reprends ses mots, il dit, moi, Marseille, je voudrais pas qu'elle devienne trop propre non plus, vous voyez, que l'identité de cette ville, et il dit aussi, il faut pas que tout se ressemble, quoi. C'est-à-dire que Marseille est une ville à identité très forte. Il faut pas qu'elle perde cette identité qui peut aussi énerver quand vous descendez à Marseille, vous dites, non mais c'est sale, on peut pas se déplacer en transport en commun. les plages, c'est un enfer, ou des choses comme ça. Mais pourtant, ça fait partie aussi, voilà. Donc, tout est une question aussi de regard. Comment Marseille peut changer sans perdre ce qui fait son identité, quoi.
Oui, c'est ça.
À 3-4 mois, les habitants du Vallon des Offres se sont plaints parce que les néo-habitants, dont les étrangers qui ont acheté des logements, des maisons au Vallon des Offres, se sont mis à les peindre, donc à les faire beau et propre. Et les habitants de anciens, donc, qui ont l'habitude, non, ça suffit, il faut pas toucher aux façades. Mais moi, je trouve que cette ville est vraiment dans le paradoxe, et c'est juste pour ça qu'il faut l'aimer, parce que on veut tout et tout le temps.
Mais le discours sur la gentrification, c'est compliqué quand même, hein, aussi. Hein, je veux dire, on se retrouve aussi aujourd'hui avec des gens qui luttent contre la gentrification, et c'est aussi le propos de mon livre, et qui font partie de l'équation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je veux dire, on parle des travaux de la Plaine. La Plaine, pour moi et pour nous, au panier, être un mec de la Plaine, c'était un Parisien pour nous. Hein. Alors, on nous a beaucoup vendu les travaux de la Plaine comme des travaux contre la gentrification, qui gentrifient avec un quartier populaire. Oui, c'est un quartier associatif, c'est un quartier d'artistes, c'est un quartier festif, mais c'était pas un quartier à forte identité, hein, la Plaine.
C'était le marché.
Oui, c'était le marché, mais le marché, c'est des gens qui viennent d'ailleurs.
C'est ça.
C'est des gens qui viennent d'ailleurs pour vendre. Ouais, mais on nous a présenté le quartier de la Plaine comme un quartier de résistance, comme un quartier. Moi, pour moi, ça a toujours été le quartier. Quand les Parisiens arrivent, où ils vont à la Plaine et au cours Julien.
Ouais.
Toujours. Et même nous, on nous disait, quand on était jeunes, on disait, ouais, dès que tu t'habilles un peu bobo, on disait, arrête, on dirait un mec de la Plaine. C'est la vérité. Donc,
l'insulte ultime.
Ouais, l'insulte ultime, c'était plus qu'un mec de la friche. Tu ressembles à un mec de la friche, sur ton vélib. Ah, là, c'est la totale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le discours sur la gentrification, c'est aussi très compliqué parce que nous aussi, on en bénéficie de ces bonnes boulangeries qui arrivent. On bénéficie de cette petite fromagerie de Parisiens qui sait bien te faire le chèvre à la lavande. Fait. Tu vois ce que je veux te dire ? Il y a quand même un truc où... Après, moi, je parle du quartier du... Moi, j'aime toujours parler de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Le quartier du Panier, c'est un quartier qui était voué à être gentrifié. C'était voué à être à la vitrine de Marseille. Le grand drame là-dedans, moi, je me rappelle à mon époque, ils faisaient l'hôtel Dieu et ils avaient déjà le projet d'en faire un grand hôtel. Et je me rappelle de mes potes qui me disaient « Putain, ça va être un beau quartier. Hein. Oh, notre quartier va être beau. » Mais ils ne savaient pas que ça allait se faire sans eux. Ils ne savaient pas. C'est ça le drame. Moi, je parle souvent de la communauté comorienne. J'habitais vraiment au cœur de l'îlot Labadie. L'îlot Labadie, c'était un marchand de sommeil. C'était Papa Sanchez. Ça a été repris par la presse nationale. C'était Papa Sanchez qui leur louait ça. C'était un marchand de sommeil dingue. C'était un bidonville au milieu de la ville. Cette communauté comorienne, dans les années 70-80, c'était une communauté très calme. Très calme, qui ne faisait pas de vagues. Ils travaillaient dans les arrières-cuisines de tous les restaurants. D'ailleurs, dans Comme un aimant, il y a une scène du film d'Akhenaton où il y a des Italiens qui arrivent, des gros fachos, et qui sont en train de manger leurs pâtes. Et ils te disent, ouais, et donc, ouais, il y a trop de noirs ici, donc ils sont fachos. Et puis, à un moment donné, il dit au patron, il dit, franchement, elles sont terribles, tes pâtes bolognaises. Qui est-ce qui les fait? Et le patron, il fait venir un comorien de l'arrière-cuisine. Et ils sont tous comme des cons. Mais cette communauté comorienne, elle est partie du panier et elle est partie dans les quartiers nord. Et aujourd'hui, dans les quartiers nord, les réseaux de shit, les voyous, les jeunes comoriens, quand je vois un jeune voyou comorien, j'arrive pas à le croire, en fait. Et c'est une communauté, je trouve, qui reflète énormément ce qui s'est passé, la fracture entre le nord et le sud. Le nord, ça a toujours été les quartiers nord. Mais dans les quartiers nord, dans les années 90, il y avait des guinguettes de quartier, il y avait des clubs de foot associatifs qui étaient très présents. Il y avait vraiment une vie de quartier. Moi, ma première femme était comorienne, donc je connais les quartiers nord. Et elle venait des cèdres, elle venait des lilas, donc au cœur du Merlan. Mais c'était un quartier où quand même ça vivait. Et ça a été des quartiers qui ont été complètement abandonnés. Le gros chantier de la ville de Marseille aujourd'hui, le gros chantier de Rubirola, c'est réussir à les ramener et réussir à créer des passerelles entre le nord et le sud. Bon, le sud, je ne sais pas s'il faut y compter, mais ramener les quartiers nord, réduire la fracture.
De mon point de vue, c'est un peu plus compliqué que ça. Marseille, c'est 112 quartiers. 112 quartiers qui ne se fréquentent pas. Mais lorsque vous étiez jeune, vous ne fréquentiez pas les jeunes de la peine, c'est ce que vous disiez à l'instant.
Et bien sûr qu'on fréquentait.
Mais de la même manière, les trafiquants qui sont dans les quartiers nord, je leur demandais s'ils connaissaient les jeunes de la Cailleule. Mais bien sûr qu'on se connaît, mais on ne se parle jamais. Y compris.
Franchement, à l'époque, il y avait beaucoup plus de mélanges que ça. Il y avait beaucoup plus de mélanges. On parle par exemple d'un groupe comme la Funky Family. Les groupes de rap à l'époque, ils se mélangeaient. C'est-à-dire que nous, on avait des rapports avec les Carmes, on avait des rapports avec Noailles, on avait des rapports.
Oui, donc nous en étions à l'arrivée des néo-marseillais. Je crois qu'on ne peut pas non plus regretter la ligne TGV Marseille-Paris, où pour rejoindre la capitale, dans un sens ou dans l'autre, il faut 3h30, alors qu'avant c'était au moins 8h. Je crois qu'on ne peut pas le regretter. Alors bien sûr, ça a un peu fait flamber les coûts de l'immobilier, mais en même temps, ça permet d'accueillir des gens à Marseille qui ne seraient pas forcément venus si cette ligne de déplacement n'avait pas été créée. Je discutais avec un copain la semaine dernière qui me disait qu'il n'y a plus une seule entreprise dont la direction de la communication est à Marseille. Un exemple significatif, c'est Pernod Ricard qui ont, au bout de moult années, décidé de vraiment se marier. Tous les services partent à Paris. Et le lieu emblématique, l'usine de Sainte-Marthe, doit être vendu et le projet, c'est d'y créer une école du cinéma. Alors, c'est pas non plus, enfin, on va pas tout jeter, hein. Il y a des choses bonnes, d'autres qui le sont moins, en tous les cas. Des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent moins. Mais ce serait bien si vous veniez passer des vacances à Marseille, Sylvie.
Je suis sûr moi je viens. Non, mais je sais pas, là, normalement, on devait, Adrien va faire une signature là dans 2 semaines. Je ne sais pas si on va pouvoir venir ou pas, mais
à quel endroit vous faites cette signature?
À la librairie Pantagruel.
D'accord. Et nous avons aussi prévu une signature le 8 décembre à l'Alcazar.
Ah, ben super, l'Alcazar, mais j'adore la bibliothèque. J'avais écrit un texte sur la bibliothèque de l'Alcazar une fois, une commande de l'école des bibliothécaires. J'avais passé une semaine dans la bibliothèque de l'Alcazar pour voir comment ça marchait. C'était assez hallucinant. Oui. On peut écrire un roman sur la bibliothèque de l'Alcazar.
Au moins, hein. Au moins. Mais quand même.
Avec des archives dingues. Il y a des archives dingues dans ce truc.
Moi, j'ai connu l'Alcazar. C'était encore un théâtre.
Oui.
J'ai entendu Richard Anthony. Ça vous parle, ça? Quand on quittait le train?
Oui.
Donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Alors,
les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
Et ce qui est devenu ce lieu, c'est quand même assez extraordinaire. 12 500 mètres carrés.
Ouais.
Mal utilisé.
Mal utilisé, qui fonctionne mal, avec des étages fermés, avec des trésors qui ne sont pas exploités et tout ça. Mais...
Ouais. Mais il y a la même chose aux archives départementales. Il y a une trentaine d'années, je m'occupais d'informatique et plus précisément d'archivage électronique. Il y avait, à ce moment-là, donc il y a 30 ans, ça n'a plus qu'augmenter depuis, 80 km de rayonnage. Personne ne sait ce qu'il y a dans ces archives. Donc il y a des registres qui sont bien tenus. Le nom du déposant, l'intitulé de la pièce déposée, etc., etc. Mais aller y faire des recherches, c'est c'est de l'exploration.
Mais bon.
Mais Marseille, c'est quand même une très, 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 très belle ville. Il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'on a suffisamment d'étrangers ici.
Ben là, il paraît qu'ils sont tous descendus pour leurs vacances à Marseille. Il y a eu un grand papier dans Libération sur ça.
Ouais, il y en a. Je crois pas qu'ils sont, pas qu'ils aient été si nombreux que ça. Mais il y en a eu, oui.
Il y en a eu. Si, si.
Bon, Adrien, Sylvie, un mot à rajouter, une phrase pour terminer cette émission.
Eh ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Ils ne s'embrouillent pas beaucoup. Hein.
Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Islam? Acheter 5 dans tes yeux dans toutes les bonnes librairies.
Yes, et ailleurs.
C'est le coup de promo sur les diversités populaires.
Non, et puis, non, moi, je vais ajouter un truc. C'est que c'est un livre très drôle. Et ça, sincèrement, je peux vous dire que c'est assez rare dans les romans français pour que quand même ça fasse le petit plus nécessaire pour qu'on prenne vraiment son pied en le lisant. Voilà. Il est drôle, Adrien.
C'est vrai
que c'est drôle.
Moi, merci. Je l'ai trouvé gourmand, mais je dis autrement la même chose.
Ouais.
Je l'ai lu vraiment avec beaucoup de gourmandise. Parce que je me demandais qu'est-ce qu'il allait me raconter la page suivante. Bon, merci Sylvie, merci Adrien d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée demain de 10h à 11h. Et puis, amis auditrices et amis auditeurs, nous nous retrouvons mardi prochain à 18h pour une nouvelle émission. À tout bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.